avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi. Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 4 minutes. Nous sommes le mercredi 3 avril et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, écoutez, on commencera par l'Algérie où le président a démissionné, mais vous le savez peut-être déjà vu que ça date de ce matin très tôt, voire d'hier soir.
Et il y a un acharnement de la répression contre les postiers du 92.
Ah, après, le titre suivant, alors qu'est-ce que ça va être? C'est toi qui sais mieux, finalement, puisque je ne l'ai pas écrit en entier. Parce
c'est des lectures de communiqués de presse du FUIQP.
Le Forum uni de l'immigration et des quartiers populaires. Et puis, un gouvernement, le nôtre, ma foi, très chatouilleux sur les symboles. On verra que ça va jusqu'à des menaces de prison pour plusieurs sortes de militants.
Et puis, on finira sur la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Allez, ouais, zou. Eh bien, écoutez, on va quand même...
Non, pardon.
Casse l'antienne. Avant de commencer les petites infos qu'on a annoncées, on va d'abord vous faire une paire de brèves.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Allez, vas-y, commence-toi.
Eh bien, la municipalité de Chicago n'a été dirigé depuis...
C'est le titre qui est important.
Ah, punaise. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que là, je vais lire un truc, c'est pas du tout moi qui l'ai préparé. Alors, on va parler de Lori Lightfoot, femme noire et ouvertement lesbienne, qui est la nouvelle maire de Chicago. Et donc, cette municipalité n'a été dirigée depuis 1837 qu'une fois par un noir et une fois par une femme. Chicago devient la plus grande ville du pays à porter à sa tête une femme noire. Alors, Lori Lightfoot a obtenu 74% des voix selon les premières estimations, après que la majorité des bulletins ait été dépouillée. Elle a fait campagne avec un programme progressiste permettant notamment de réduire les inégalités sociales et raciales, comme quoi, des fois, ça marche.
N'oublions pas qu'elle est juge.
Ok, je savais pas ça. Et puis encore une autre brève, écoutez, Christophe Castaner en a assez, et ouvrez les guillemets, c'est de lui, de la fable du méchant flic et du gentil casseur. Voilà, c'est une.
Ça va
suivre maintenant une paire d'extraits de son discours aujourd'hui à Avignon. En Avignon, on dit. J'en ai assez de cette fable du méchant flic et du gentil casseur avec son gentil cocktail Molotov. Ça, c'est du Castaner. Il était en train de parler à des flics. Donc, je vous fais une promesse de me battre à chaque instant pour votre honneur et de confondre ceux qui vous dénoncent et se placent de fait du côté des casseurs. À chaque fois que quelqu'un critique les flics ou parle de violence policière, ça veut dire que la personne soutient la casse globalement. Écoutez, d'une certaine manière, peut-être que... C'est pas entièrement faux, mais voilà, en tout cas, c'est dire voilà, de quel côté lui se trouve. Il n'y a pas une journée sans une accusation infondée, pas un moment sans une nouvelle dénonciation gratuite à l'égard des forces de l'ordre.
C'est vrai.
A-t-il ajouté, tout en rappelant que, bien sûr, et ouvrez encore une fois les guillemets, s'il y a des fautes commises par les flics, hein, et cela peut se produire. Non, incroyable. Il y aura des enquêtes et des sanctions, bien sûr. Combien d'enquêtes, combien de sanctions depuis par exemple le mois de novembre, où on a pu compter au travers des différentes manifestations. Ma foi, 154 personnes. Alors, on a pu compter, attention, c'est les gens qui ont compté, c'est le collectif Désarmons-les, en tout cas le compte sur lequel je vais m'appuyer. C'est pas du tout exhaustif, hein, c'est les gens avec lesquels ils ont pu être en contact, et ils précisent bien là-dessus qu'ils n'ont répertorié que les blessures ayant entraîné au moins des fractures des os, ils disent, la perte totale ou partielle de membres et l'incrustation dans les chairs d'éclats de grenades. C'est-à-dire quand même, on parle pas des gens qui ont un au beurre noir ou une bosse. Et là, ils ont quand même trouvé 154 personnes pour l'instant, dont quand même une personne qui a perdu définitivement l'audition, 22 personnes qui ont perdu l'usage d'un œil, 5 personnes qui ont eu leurs mains arrachées et une personne qui a été tuée par une grenade lacrymo à Marseille.
Et puis aussi, pour contrebalancer les propos de Castaner, eh ben y a encore une mort suspecte de la police la semaine dernière. De Ange, on ne va pas en parler en détail parce que le Canu Info du lundi, on a déjà parlé, mais quand même, Ange, il a été déclaré officiellement mort dimanche, alors qu'il a été récupéré par les flics dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il est tombé dans le coma et les déclarations des flics disent qu'il aurait ingéré une substance non identifiée. Ça semble très très louche. C'est la première fois que les flics osent mentir, annoncer des choses aussi loufoques que ça. En tout cas, ça en parle pas mal sur les réseaux sociaux. Et puis il y a du soutien et des différentes actions qui vont être organisées. Et une dernière brève pour lancer ce Canu Info, c'est la grève des éboueurs à Lyon. Et du coup, depuis hier, il y a aussi toutes les boîtes privées qui font le ramassage des ordures qui se sont mis en grève. Hier, il y avait aussi une assemblée des éboueurs hier soir organisée. On n'a nous-mêmes pas eu le temps d'y aller pour prendre du son, mais n'hésitez pas à suivre les médias locaux sur cette grève.
Et c'est vrai que suivant les quartiers où vous habitez, c'est possible que vous trouviez... moi, j'habite dans un quartier où, a priori, l'équipe ne fait pas grève. Les poubelles sont bien ramassées. Mais dès qu'on sort un tout petit peu, mais des fois, il suffit de s'éloigner de quelques rues, on peut voir qu'il y a des équipes qui font grève depuis un moment. Parce que, notamment, si on va à Oulin, c'est la folie, il y a des tas d'ordures qui commencent à être assez impressionnants. Donc voilà, donc en tout cas, bonne continuation à eux.
Et ben voilà, tout le monde l'a déjà entendu, mais on va le rappeler, le président a démissionné en Algérie. Abdelaziz Bouteflika n'est plus le président de l'Algérie. La fin d'un règne de 20 années quand même. Les contours de la période charnière qui s'est ouverte hier, mardi soir, restent cependant à dessiner. Parce que si l'annonce du départ du chef de l'État a été accueillie avec enthousiasme aujourd'hui et hier soir, les premières inquiétudes et questions n'ont pas tardé à poindre. D'autant plus qu'après 5 semaines de mobilisation, le peuple algérien a pris conscience de sa force et au-delà des structures politiques habituelles. Et ce peuple entend faire résonner sa voix, sa force dans les prochaines semaines pour arriver à des élections où serait élue une personne qui choisisse vraiment et qui ne soit pas encore une fois une marionnette ou que ce soit l'armée qui reste. Alors je vous conseille d'aller écouter une émission qui s'appelle Actualité algérienne sur Radio Galère qui est les vendredis. Demain jeudi 11 avril, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine, je dis n'importe quoi, à 19h, entre 19h et 20h30, il y aura une soirée consacrée aux luttes du peuple algérien sur FPP, qui est une radio camarade parisienne. et le thème sera central, sera l'avenir de l'Algérie, donc avec plein d'interventions. Donc n'hésitez pas aussi à écouter. Je parle de ces deux émissions parce que c'est sur des radios militantes, et puis c'est aussi pas mal d'Algériens et d'Algériennes qui prennent la parole. Et ce que je vais continuer à vous lire, ça vient du site Jeune Afrique. Et aussi, voilà. Non, mais. Ah, je me perds. Sinon, je peux plutôt parler de ce que j'ai lu dans Maghreb Émergent, qui est un autre site, où, selon ce média, les Algériens ont assisté à un hold-up institutionnel devant leur télévision hier soir. Ce n'est pas leur révolution pacifique qui a mis fin au pouvoir politique de Abdelaziz Bouteflika et de son clan. C'est leur nouvel ami, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Puisque le général de corps de l'armée est très largement sorti de son rôle en exigeant, au terme d'une réunion de la haute hiérarchie de l'armée, le 2 avril, la démission immédiate du président. Le président de la République, qui avait fait savoir la veille qu'il comptait démissionner avant la fin de son mandat le 28 avril prochain, et avoir pris des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État. Donc c'est l'annonce de ces prochaines mesures qui a accéléré les événements. La réunion convoquée en urgence par le chef d'état-major pour exiger le départ de Bouteflika dans son délai a été justifiée par la nécessité d'empêcher une solution non constitutionnelle. Et bref, en tout cas, pourquoi je vous ai lu ça, c'est que en même temps, j'ai lu et entendu plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement heureux et en même temps extrêmement inquiets, parce qu'ils n'ont pas envie que ça soit l'armée qui reste au pouvoir en Algérie. Et donc là, en même temps, c'est aussi cette victoire quand même de la rue. Mais c'est aussi une période qui s'annonce en grand point d'interrogation. Et aussi qui, vu l'histoire de l'Algérie, et beaucoup de gens ont peur d'aller dans des scénarios de violence sociale forte. Et donc, pour fêter ça quand même, pour fêter le départ de Bouteflika et encourager le mouvement populaire en Algérie, on va écouter une chanson de Gnawa Diffusion qui a été réalisée ces derniers jours. C'est une nouvelle chanson qui revient sur ce dernier mois de lutte et ça s'appelle « Ho Ho ».
Et alors, mon camarade nous a parlé d'émission Algérienne hyper bien sur Radio Galère, sur FPP. Il ne faudrait pas oublier pour autant que sur Radio Galère, on a eu une émission.
Non, c'est Radio Canu.
C'est nous, Radio Canu.
Mais c'était tellement évident que je ne l'ai pas nommé.
Kabyle, les samedis soirs, qui parle de l'Algérie et qui est souvent très passionnante. Tout ça pour dire que, ah oui, c'est ça, qui va être le moment de parler des. Alors, de parler un petit peu vite fait, parce que c'est des postiers-postières du 9-2. Puisque ouais. Les postiers-postières du 9-2 sont en grève et que c'est au milieu de leur grève, tiens bizarre, alors qu'ils ne sont pas non plus en grève tout le temps, hein, tiens bizarre que la justice se rappelle d'un vieux truc qui remonte à 5 ans.
On peut quand même dire qu'ils sont en grève depuis un an.
Ouais, ça va. N'empêche que c'est maintenant que la justice se rappelle d'une vieille histoire d'il y a 5 ans et convoque pour le coup Brahim, Dalila, Momo et Gaël. Pour une vieille histoire d'occupation du siège social de la Poste qui se situait à l'époque à Vaugirard. Cette occupation s'était déroulée dans le cadre déjà d'une grève âpre et longue. 5 ans après, on veut les accuser de violence, de dégradation et de violation de domicile. En tout cas, leurs camarades appellent à se réunir devant le parvis de la cité judiciaire, mais comme c'est à Paname, je ne vais pas donner toutes les précisions du rendez-vous. Si jamais vous vous retrouvez par là-bas, vous n'avez qu'à vous débrouiller pour trouver les infos.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Et donc, je vais vous lire un communiqué du Front uni de l'immigration des quartiers populaires, le FUIQP, relatif à l'attaque contre les Roms en Seine-Saint-Denis. Et sur leur site et sur Mars Info, vous pouvez également retrouver l'intervention qui est très intéressante de Saïd Bouamama, pour le FUIQP en hommage pour les victimes de l'attentat du suprématisme blanc à Christchurch le 22 mars 2019. Mais les deux sont un peu longs, je vous en lis que un. Donc, les agressions violentes de ces derniers jours contre les personnes roms ou supposées telles dans les quartiers populaires d'une dizaine de villes de la région parisienne sont ignobles. Elles ont à être qualifiées et condamnées pour ce qu'elles sont, des passages à l'acte raciste inadmissibles. Le combat contre le racisme ne se divise pas à moins d'être dans un antiracisme de façade. L'indignation ne se hiérarchise pas en fonction de l'origine des victimes, à moins d'être dans un antiracisme instrumentalisé. L'origine des agresseurs ne peut jamais amoindrir la gravité de la responsabilité, à moins d'être dans un antiracisme hypocrite. D'ores et déjà, on compte de nombreux blessés et la peur s'installe logiquement après de nombreuses sœurs et frères roms. La colère contre ces violences racistes doit aller de pair avec l'effort pour saisir les causes et pour mettre en évidence les responsabilités directes, mais aussi indirectes, immédiates, mais aussi plus profondes. Depuis plusieurs années, en effet, les Roms sont l'objet de discours politiques et médiatiques culturalistes et stigmatisants, conduisant à les construire comme figure du danger, de l'incivilité, de la saleté, etc. Depuis de tout aussi longues années, des pratiques d'État et des politiques locales contribuent par la racialisation qui les sous-tend à banaliser l'objectif de la chasse aux Roms. De l'expulsion récurrente des campements au refus d'organiser le ramassage des ordures ménagères de ceux-ci, en passant par la déclaration de Manuel Valls sur les Roms n'ayant pas vocation à rester en France, ce qui est banalisé ces dernières années, c'est la légitimité de l'idée de se débarrasser des Roms en les construisant comme barbares, sauvages et inhumains, c'est-à-dire comme boucs émissaires. Bien sûr, le message est généralement plus policé et plus euphémisé, mais le contenu est bien celui-là. Mais l'urgence aujourd'hui n'est pas à l'analyse, elle est à l'action immédiate. Nous appelons à la multiplication des actes de solidarité avec nos frères et nos sœurs roms. Le FUIQP appelle chacun à prendre des initiatives à son niveau et qu'il nous le fasse savoir pour qu'on puisse les diffuser, rendre visite au campement avec des roses ou des gâteaux, participer activement à la protection des lieux où habitent les personnes roms, campagne de photos affichant notre solidarité, demande à l'imam de la mosquée du quartier d'aborder la question. Nous devons aussi inonder les réseaux sociaux pour faire barrage aux rumeurs moyenâgeuses que certains s'évertaient à diffuser sans arrêt ces dernières semaines. La leçon que Frantz Fanon nous donnait à propos des juifs est non seulement pertinente à propos de l'islam et des musulmans, comme l'a montré l'attentat islamophobe de Christchurch. Elle est également pertinente à propos des Roms. On pourrait ainsi paraphraser Fanon comme suit aujourd'hui. Quand vous entendez dire du mal du musulman, tendez l'oreille, on parle de vous.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Depuis février 2019, de nombreux portraits du président de la République sont dérobés dans les mairies dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, notamment par des militants se réclamant du mouvement ANV COP21, mouvement citoyen né de lors de la COP21. C'est comme ça que commence un fameux mail. Un fameux mail signé par le sous-directeur adjoint de la police judiciaire auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale, un mail envoyé globalement aux gendarmeries. Dont on va continuer à raconter un peu le contenu. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de portrait du président de la République dérobé? Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que les premiers jours ça avait été un petit peu médiatisé. C'est des gens qui, pour protester contre l'inaction du gouvernement vis-à-vis du climat, ont décidé d'aller piquer des portraits du président de la République dans les mairies, puisque vous savez que dans chaque mairie, il y a un portrait du président de la République, ça depuis toujours. Et donc là, maintenant, c'est un portrait de Macron. Donc les gens vont dans les mairies, piquent des portraits et disent qu'ils les rendront une fois que Macron aura commencé à faire quelque chose de sérieux contre le changement climatique.
Ah, pas sûr qu'ils les rendent du coup.
Pas sûr qu'ils les rendent un jour. Effectivement. Mais alors, ce mail demande encore aux gendarmes de s'assurer qu'une procédure judiciaire de flagrance soit systématiquement ouverte pour vol aggravé. Il leur demande aussi de recueillir les plaintes des maires de manière à conforter la réponse pénale des parquets. On parle de gens qui rentrent dans les mairies et qui piquent un portrait du président de la République. Donc ces gens devraient pouvoir se retrouver accusés de vol aggravé, c'est-à-dire de vol avec une circonstance aggravante. Par exemple, ça peut être le fait qu'ils le fassent en réunion, juste le fait d'être plusieurs, ça suffit à être une circonstance aggravante. Et là, on parle potentiellement, bien sûr, mais en tout cas, on parle d'une peine qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. On continue ce qui est écrit dans le mail en question. Dans le cas où les vols de portraits de Macron sont revendiqués ou médiatisés au nom de l'association ANV COP21, ANV c'est pour Action Non Violente, on parle quand même de gens qui sont des gentils. Hein. Pas du tout des sortes de... Je veux dire, pour le coup, c'est même pas d'eux que parlait Castaner tout à l'heure. Quand il parlait des casseurs, là c'est des gentils. Hein. Alors si jamais ces gentils revendiquent les vols de portraits, les gendarmes sont invités à prendre attache avec le blatt. Qu'est-ce que c'est que le blatt?
c'est des insectes qu'il faut écraser.
Eh ben, alors pour le coup, non. Ah. Attention, avec ce que je vais dire à la suite, les gens qui nous écoutent et qui sont prêts à appeler les flics, mon collègue ne savait pas exactement ce que voulait dire le blatt, et je le précise maintenant, c'est le bureau de lutte antiterroriste. Donc... donc pas des insectes finalement, des humains.
En fait, ce sont donc des...
ce sont bel et bien des humains et c'est tout. Mais donc voilà, si jamais l'ANV COP21 revendiqué, alors là il faut direct que les gendarmes prennent attache avec le blatt afin de déterminer les modalités à mettre en œuvre pour rechercher la responsabilité morale de l'association.
Rien à voir avec le bégon du coup.
Il faut aussi que le SCRC, rien à voir avec le bégon non plus, le service central de renseignement criminel, fasse un bilan hebdomadaire tous les mardis des vols de portraits.
C'est-à-dire que ça va les faire chier quand même. Je pense qu'ils sont un peu pas contents.
Surtout,
qu'est-ce qu'elle est payée à faire la police,
surtout si les vols de portraits semblent avoir un rapport, alors pour le coup que ça soit directement revendiqué ou pas, si ça semble avoir un rapport avec cette ANV COP21. Et donc ce bilan devra remonter jusqu'au blatt. Bon bref, on prend pas les choses à la légère.
Et s'il dessine des moustaches sur le portrait, c'est encore plus grave.
Alors là, parle-en moi même pas. C'est pas écrit dans le mail, mais là, je pense que ça va être la terreur. Par ailleurs, alors du coup, il y a effectivement des militants qui se font arrêter. Hein, vous allez voir, on va donner le chiffre après, c'est quand même hallucinant, quoi. Mais du coup, les gens se font arrêter là-dessus, mais pas que des militants, puisque le Syndicat national des journalistes, c'est pour la part étonné que, d'une part, un journaliste du Maine Libre, alors vous voyez, le Maine Libre, autant dire que Le Progrès à côté, c'est un grand journal. un autre d'une télé locale, un correspondant de West France, ait été convoqué à une audition libre par la gendarmerie du Mans dans le cadre d'une enquête sur le vol d'un portrait présidentiel à la mairie de Rouillon. Donc alors là, pour le coup, les gendarmes, ils sont allés, ils ont arrêté les gens, puis hop, ils ont arrêté tous les journalistes qui traînaient. J'imagine que les militants avaient convoqué des journalistes. Ils ont arrêté tous les journalistes, bim, bim, bim. Et quand même, le SNJ, le syndicat des journalistes, souligne qu'il s'agit d'une entrave à la liberté d'informer. Oui, enfin bon, c'est la gendarmerie qui, ma foi, fait son travail de manière sérieuse et systématique. Alors, le site de ce ANV COP 21 fait un bilan de l'opération qui est baptisée l'opération Sortons Macron. Et donc, on parle de la réquisition de 30 portraits présidentiels. Bon, je ne sais pas combien il y a de communes en France, mais c'est quand même un sacré paquet. Là, il y a 30 portraits qui ont été dérobés. Pour 30 portraits, il y a eu 43 personnes auditionnées, 23 gardes à vue, 17 perquisitions chez les militants. C'est-à-dire que si les gens ne se sont pas fait arrêter sur le coup, les gendarmes ont enquêté pour les retrouver, pour aller chez eux, pour perquisitionner. Alors j'imagine, ils ont cherché le tableau, mais en vrai, ils ont certainement cherché les ordinateurs, les téléphones, les machins. Donc une saisie du bureau de lutte antiterroriste et quand même 20 convocations au tribunal pour vol en réunion. Ah! C'est là qu'on en est. Alors, ma foi, c'est pas une initiative d'un capitaine de gendarmerie locale, hein, c'est bien une consigne générale aux gendarmeries. Rappelons, tant qu'on y est, que fin décembre, des gilets jaunes avaient fait une sorte de pantin à l'effigie de Macron, qui l'avait décapité publiquement. Autant dire vraiment un truc de classique de manif, quoi, comme quand n'importe quels étudiants font un cercueil où ils mettent le nom de la réforme de l'année contre laquelle ils se battent ou n'importe quoi, c'est vraiment du béaba. Et ben là, ça avait quand même fait que trois personnes avaient été mises en examen pour, attention, outrage au président de la République. Ah, parce que ça, on rigole pas avec la dignité du président.
Il est peut-être sourd parce qu'il n'a pas du tout entendu tous les slogans de manif, j'ai l'impression.
Oui, non, c'est effectivement. Mais pour, alors, encore plus... Et pour le coup, ça c'était aussi un truc où c'était directement le gouvernement qui avait demandé ces mises en examen et pour provocation à la commission d'un crime.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que couper la tête d'une marionnette, c'est provoquer les gens à commettre un crime. Non, bah voilà, c'est tout. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute ?
Écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place.
Eh bien, hop, et ben mercredi dernier, un bateau commercial nommé Lily Blue One porte secours à une centaine de migrants. L'équipage reçoit comme consigne de la part du poste de contrôle de Tripoli, qui est maintenant la plupart du temps chargé de s'occuper des bateaux en perdition. Voilà. Donc il reçoit comme consigne de ramener les migrants naufragés en Libye, parce que oui, les Libyens se font payer très très cher pour être le seul pays à quand ils secourent les migrants à accepter qu'ils reviennent sur leur territoire, et les migrants le payent très cher. Alors voilà, c'était un pays donc qu'ils venaient de fuir et où vraisemblablement une bonne partie d'entre eux, si ce n'est la totalité, hein, a connu ce qu'on appelle l'enfer libyen. Le commandant de bord annonce la nouvelle aux naufragés. Alors, bien entendu, tout le monde n'a pas apprécié cette annonce. L'idée même de retourner dans cet endroit où l'on réserve le pire sort aux migrants n'était pas une option. L'idée d'être livré puis enfermé dans ces prisons était impensable. Alors, une poignée d'entre eux a décidé de prendre le contrôle du navire, de l'aveu même du commandant de bord. Je cite, ils étaient désespérés et ne voulaient absolument pas retourner en Libye. La panique et la confusion ont éclaté lorsque les migrants ont compris que l'on retournait en Libye. Alors lui, il aura au moins eu l'honnêteté de dire aux migrants la destination où il comptait se rendre, ce qui n'est pas le cas pour certains navires commerciaux où, a priori, il y a, on ne sait pas pour l'instant si c'est au niveau du centre de commandement de Libye ou si c'est les armateurs, les propriétaires des bateaux qui donnent ces consignes. Mais en tout cas, il y a comme consigne pour les bateaux commerciaux de dire « Oui, oui, vous inquiétez pas, on vous amène dans un port en Europe. » Mais en fait, pas du tout, ils les ramènent en Libye. Bref, ça a donné lieu, on en a parlé plusieurs fois, à des gens qui refusent de débarquer et l'armée libyenne qui intervient sur le bateau pour débarquer les gens manu militari. Donc voilà, la marine maltaise a réussi à prendre contact avec le commandant de bord qui leur a signifié qu'il n'avait plus le contrôle du navire au moment où il était à 30 miles des côtes maltaises, ce qui fait à peu près 48 kilomètres. À partir de là, les autorités maltaises parlent de piraterie. Salvini tweet, alors c'est quand même lui, il dégaine des tweets plus vite que son nom. Je cite, ce ne sont pas des naufragés mais des pirates. Sous-entendu, enfin dégommelé quoi. En moins de 24 heures, un patrouilleur de la marine maltaise, donc l'armée, empêche le navire de pénétrer dans les eaux territoriales de Malte. Un commando des forces spéciales, soutenu par plusieurs navires de la marine et par un hélicoptère, débarque sur le navire avec des hommes armés et cagoulés pour prendre le contrôle du navire. Le bateau est ensuite escorté au port de La Valette à Malte. Une fois les personnes débarquées, 5 personnes ont été arrêtées car considérées comme des meneurs. Il y a 2 jours, on apprenait que la justice maltaise poursuivait 3 migrants pour terrorisme, tous les 3 âgés de 15, 16 et 19 ans. En droit maltais, la saisie illégale du contrôle d'un navire peut être considérée comme une activité terroriste et peut être punie de 7 à 30 ans de prison. Voilà, donc on imagine qu'il y a la volonté d'envoyer un signal très 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 fort aux migrants et migrantes qui se font secourir en mer et voilà, en gros l'idée c'est de faire passer le message de ne vous amusez pas à refaire cela, voilà ce qui risque de vous arriver. Tout ceci arrive dans un contexte où, on le rappelle, l'Union Européenne a suspendu l'opération Sophia, qui était certes une opération militaire mais qui avait aussi pour but de secourir les embarcations en détresse. Il y avait plusieurs navires militaires qui tournaient en Méditerranée pour secourir les canaux. Dorénavant, il n'y a plus qu'un avion qui les signale à des navires commerciaux ou les gardes-côtes libyens. Il y a donc aussi les gardes-côtes, les navires commerciaux qui sont de plus en plus souvent appelés pour aller secourir ces embarcations et ramener les migrants à Tripoli, si possible, hein, comme je le disais au début, en montant sur la destination. Et où après les stratégies douteuses de plusieurs gouvernements des pays européens qui font que tout un tas de bateaux d'ONG se retrouvent cloués à quai pour des procédures de contrôle administrative abusives. Alors pour info, hein, la semaine dernière, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme de l'ONU, Andrew Gilmour, a évoqué les tortures et viols subis par les migrants détenus en Libye et a appelé l'Union européenne à revoir son soutien aux gardes-côtes libyens.
On imagine que l'Union Européenne va l'entendre.
Il faut que ça se sache.
Et à Lyon, il y a un collectif de soutien à Kélé qui est relié à RESF Collectif Jeunes. Et en fait, Kélé, il s'est pris déjà 2 OQTF, donc obligation de quitter le territoire. Et il y a une mobilisation qui s'est montée avec lui pour qu'il arrive à rester en France. Et donc lui il fait des études et il est artiste, et donc c'est beaucoup des gens artistes qui le soutiennent et sont reliés à cette lutte avec lui. Et donc, juste pour rappel, il y avait une soirée de soutien le 18 janvier. Il y a eu 4000 signatures de la pétition autour quand il était passé le 12 février au tribunal administratif pour contester la deuxième obligation qui était le territoire. Et la mobilisation donc continue. Il va y avoir un rassemblement devant la préfecture du Rhône le mercredi 10 avril de 18h à 20h, donc la semaine prochaine, mercredi prochain. Et donc l'idée, c'est de balancer l'info pour que si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller, parce que souvent les mobilisations, elles marchent. Quand on sur des des personnes individuellement, ça marche pas systématiquement, mais le fait de voir que les gens ils sont entourés, soutenus et déterminés, et ça peut permettre de faire flancher le tribunal et de lâcher l'affaire. Donc voilà. Et puis si vous voulez plus d'informations, il y a l'émission Patchword qui a le vendredi de 16h à 17h qui a invité la semaine dernière Kelly pour raconter un peu son histoire. Donc n'hésitez pas à aller la réécouter sur les blogs de Radio Canu.
Ça sache.
Et pour finir ce Canu Info, on va vous faire une info d'agenda, parce que il y a la salariée de l'association Frise qui est passée par Radio Canu nous donner l'info pendant le Canu Info. Donc Frise, c'est une association de santé communautaire, santé sexuelle pour toutes. Et il y a l'organisation d'un colloque international genre et sexualité du 4 au 6 avril 2019, et ça se passera à Lyon 1 Rockefeller.
L'université de médecine.
Voilà, l'université de médecine. Donc, le jeudi, ça se passera à l'université de médecine, le vendredi à l'ENS Descartes, et le samedi à Lyon 3 sur les quais. Donc ça fait jouer plein d'institutions, plein d'universités, etc.
Ce qui est un peu un événement, c'est que ça va être un colloque de sciences sociales à l'université de médecine. C'est pas habituel et c'est intéressant. C'est une bonne chose.
Oui, et surtout que il va y avoir une conférence gesticulée. Une conférence gesticulée, c'est des personnes qui sont spécialistes de questions parce qu'ils ont travaillé là-dedans, et qui font une conférence beaucoup plus digeste parce qu'ils mélangent des savoirs théoriques et de l'expérience. Et donc c'est une conférence que j'ai vue et qui est vraiment bien, qui s'appelle « La place n'était pas vide » de Catherine Markstein. Et en fait, elle est médecin depuis 1980, fondatrice et coordonnatrice de l'ASBL Femmes et Santé de 2005 à 2019. Et du coup, elle parle de la santé des femmes et de l'appropriation du corps, un enjeu principal pour les femmes. Et aller la voir, c'est super. Et donc, ça sera donc à 19h30 à cette université de médecine de Lyon. 19h30, jeudi 4 avril 2019. Et pour avoir tout le programme, c'est genre-et-santé.scienceconf.org.
Eh bien, il est 19h bientôt 45. Après, il y aura Idée Noire après un petit quart d'heure de bande continue. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
Ciao!
Bonne soirée.
Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
C'est le Canu Info, c'est le Canu Info, c'est le Canu Info du
belle des radios.